L'histoire ne dit pas si Elsa et Pauline voyaient double ce soir-là. Moi, je dirais au contraire qu'elles ont vu clair. Car c'est bien comme ça que leur projet d'upcycling de paires de lunettes a vu le jour. Autour d'un, ou plusieurs, verre de vin. Lunel Vintage était née. À mon micro, c'est Elsa qui vient nous livrer cette belle histoire. Elle nous raconte comment tout a commencé, leur passion commune des brocantes, les fouilles dans les trésors perdus de sa grand-mère, et écoutez bien jusqu'au bout, car elle nous révèle aussi comment voir la vie en rose. Elle nous explique également le processus de restauration, leurs divers engagements à toutes les deux, et l'évolution de Lunel Vintage jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez que ces deux nanas incroyables ne sont jamais à court d'idées. Et aussi, et surtout, que consommer mieux, ça ne doit pas se faire dans la douleur. Ça peut être fun, plaisant et bien stylé.
I got 99 problems, but changing the world ain't one.
C'est possible vu qu'ils l'ont fait. Je te parle de ces gens qui ont pris la bretelle de sortie, le chemin de traverse, qui ont réinventé les codes, qui ont bousculé les business models habituels pour se créer leur propre réalité.
Aller à contre-sens pour retrouver du sens.
Ils entreprennent, ils agissent, ils ont soif d'impact positif et de liberté. Je te présente les histoires extraordinaires de ces 99 Challengers qui, a priori, avaient tout d'ordinaire. Et si ça t'inspire et que tu veux faire comme eux, je n'ai qu'une chose à te dire, vas-y, fonce. Je suis Alison Picalosa et tu écoutes 99 Challengers, le podcast. Bonjour Elsa.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va très bien et toi?
Mais super, ça me fait super plaisir de t'avoir dans le podcast parce que ça fait très longtemps qu'on échange.
C'est vrai que ça faisait un moment qu'on est en contact, ouais.
Ouais, tout à fait, c'était une volonté mutuelle et voilà.
Ça valait le coup, j'ai hâte.
Super, on y va alors. Est-ce que tu peux un peu me parler de toi, me dire brièvement qui tu es et quel est ton projet ?
Bien sûr. Je m'appelle Elsa et avec Pauline, qui est une très bonne amie, on est toutes les deux cofondatrices de Lunel Vintage. Et Lunel Vintage, c'est un projet qu'on a créé pour redonner une seconde ou troisième vie à nos lunettes. Toutes ces lunettes qui traînent dans les fins fonds de nos brocantes ou dans les tiroirs de nos grands-mères ou autres. Et on a décidé de monter ça par un souci d'économie circulaire et quand on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas un objet ou un accessoire qui était en fin de vie quand la plupart des gens pensaient qu'il était en fin de vie et qu'il pouvait être restauré, réutilisé.
Et donc, vous êtes dans quel coin ?
Alors, on est placé à Saintes, donc en Charente-Maritime, dans l'ouest de la France. Et c'est là où on a le siège social. Notre atelier est dans le garage de Pauline. Mais on travaille bien sûr avec... donc sur toute la partie, on rentrera plus en détail après, sur toute la partie restauration et changement des verres, on travaille avec des ateliers et des opticiens qui sont aussi dans la région. On essaie de faire aussi local que possible, en achetant par exemple les verres en France, etc. Donc dans l'ouest de la France. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne se déplace pas pour des marchés ou autres, ou qu'on ne peut pas envoyer nos lunettes partout en Europe ou dans le monde. Donc les lunettes, une fois restaurées, sont mises en vente sur notre site en ligne pour que vous leur donniez une autre vie en tant que lunettes de soleil, lunettes de vue, de lumière bleue. Et bientôt, attention, ceci est une exclusive.
Ah.
Collection dans quelques semaines de lunettes de ski, vintage de ski avec des verres polarisants.
Super, waouh. Et comment vous les trouvez ces lunettes ?
Alors c'est là où justement on s'amuse beaucoup parce que on adore chiner et donc on peut trouver les lunettes. Ça a commencé le projet en trouvant des lunettes en brocante. C'est une activité qu'on adorait avec Pauline. On s'est rencontrés pendant nos études et à Bordeaux. Ensuite on a fait une école d'ingé ensemble à Nancy. Et à Nancy, il n'y a pas grand-chose à faire le dimanche quand on est étudiant. Et on adorait du coup faire les brocantes environnantes. On prenait nos vélos et on y allait. Et donc ça a été la première source de lunettes. Maintenant, on s'est beaucoup diversifié. On cherche aussi en ligne. On a des points de collecte, notamment en Belgique. On a un point de collecte si vous voulez déposer aux vieilles lunettes chez Human Village. Je ne sais pas si tu connais.
Ça me dit quelque chose, ça se situe où ?
C'est à Bruxelles, c'est un magasin qui est basé sur l'économie circulaire, donc qui revend soit des choses d'occasion, soit pas mal de marques de créateurs qui font comme nous de l'upcycling, donc du surcyclage, pour revaloriser des objets, des textiles, des choses qu'on pourrait croire en fin de vie, donc que certains définiraient comme déchets, mais qu'en fait, nous et d'autres considérons que c'est juste le début d'une prochaine vie, et qu'en fait, c'est des ressources, mais il faut bien sûr les retravailler un petit peu.
Oui, tout à fait. Et donc, en parlant de ça, retravailler, qu'est-ce que vous faites du coup avec les anciens verres ?
Ouais, alors, on a vraiment essayé de pousser le concept de l'économie circulaire jusqu'au bout. Et les anciens verres, pendant plus d'un an, on les a gardés parce qu'on s'est dit que c'est pas possible qu'il faille les jeter, surtout qu'ils sont pas, beaucoup de gens ne le savent pas, mais ils ne sont pas recyclables parce qu'ils étaient à l'époque faits en verre, mais depuis les années 70-80, c'est des polymères pas recyclables. Et donc, faudrait les incinérer. Donc, on s'est dit, c'est hors de question. La plupart des lunettes qu'on récupère, c'est des anciennes lunettes de vue. Donc, tous ces verres-là, on les change, évidemment. Et un jour, j'ai découvert dans une petite boutique à Madrid, j'allais beaucoup à Madrid à ce moment-là, j'ai découvert des artisanes qui faisaient des broches qui me faisaient penser à des verres. Et donc, je les ai contactées. J'ai dit, est-ce que c'est des verres de lunettes que vous utilisez pour vos bijoux ? Et elles m'ont dit, oui, tout à fait, c'est ça. En fait, c'est que mon père, donc l'une d'entre elles, son père, avait travaillé dans une ancienne usine de lunettes et avait récupéré, quand l'usine avait fermé, énormément de verres et de montures. Et du coup, elle s'était demandé comment les revaloriser. Elle avait trouvé la possibilité d'en faire des broches et des colliers. En mettant, donc comme le verre est transparent, une image à coller derrière et ensuite en sertissant soit d'une broche, soit d'une chaîne. Et du coup, je leur ai dit direct, est-ce que vous voulez revaloriser nos verres ? Et elles ont accepté. Et voilà, c'est le projet maintenant. À chaque fois qu'on a une boîte ou plus d'anciens verres de vue, on leur envoie et ça devient des colliers, des broches. Et on est super contentes.
Génial. C'est vraiment une super histoire. Et donc, je me demande un petit peu par rapport à l'upcycling. Est-ce que c'était vraiment quelque chose à laquelle vous étiez sensibilisée déjà avant ? Ou est-ce que justement c'est avec l'idée du projet que vous êtes tombée dedans ?
Je pense qu'il y avait un peu des deux, mais honnêtement, tout ce qui était économie circulaire et autres, on a commencé à réfléchir à ce projet en 2018. On n'était pas encore vraiment dedans. On avait vraiment envie de consommer autrement, donc ça a commencé aussi par notre propre besoin de trouver des lunettes dont on pouvait connaître un peu la traçabilité, savoir quel était l'impact environnemental, les matériaux et tout. Et dans le monde de l'optique, à cette époque, c'est vraiment en train de changer, donc ça c'est chouette. À cette époque, c'était assez opaque. Donc il y avait vraiment une envie de consommer différemment, mais toutes ces notions de surcyclage, d'économie circulaire, de revalorisation des déchets ou des rebuts de d'autres peut-être entreprises, je pense que c'était des notions qui étaient pas totalement installées en nous, mais qui clairement ont grandi et on a essayé vraiment de pousser le truc jusqu'au bout. Et si on continue avec Lunel Vintage, c'est vraiment parce qu'on veut montrer que l'économie circulaire peut être appliquée. Et qu'en fait, l'économie circulaire, c'est pas que le recyclage. Ça, c'est vraiment la dernière des étapes à faire.
Tu peux un peu nous en dire plus justement sur l'économie circulaire, sur l'évolution dont tu parles ?
Oui, pour m'être depuis beaucoup renseignée sur les concepts d'économie circulaire, il y a notamment le principe des 5 R, qui est souvent présenté, mais qu'on connaît pas forcément, qui met en avant, en gros, une échelle, une hiérarchie de ce qui est recommandé dans l'économie circulaire. Et donc, souvent, bon, c'est avec des mots en anglais, mais le premier R, ça va être refusé. Donc, si on n'a pas besoin de quelque chose, en fait, c'est pas nécessaire d'utiliser des ressources de cette planète pour le fabriquer. Donc, juste un peu plus de sobriété, sans forcément aller vers des extrêmes du tout. Ensuite, il va y avoir réutiliser. Donc, c'est tout ce qui est la seconde main, etc. Réutiliser la chose en l'état, si c'est possible. C'est ce qui est le plus économe en énergie et en ressources. Ensuite, si on peut pas réutiliser en l'état, ce qui est clairement le cas des lunettes, parce que c'est des verres de vue, parce qu'elles sont abîmées, parce que c'est pas forcément hygiénique avec les parties qui sont sur le nez, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revaloriser ou restaurer. Et donc ça, c'est on change pas la fonction, on restaure. C'est-à-dire que on remet en l'état, on retravaille la matière. Ça peut être aussi pareil pour un meuble, en fait, qui est vraiment abîmé. On va le polir, le repeindre. Ben, nous, les lunettes, on va les polir, on va changer certaines pièces, on va changer les verres. Ça, c'est du reconditionnement. Ensuite, il va y avoir le surcyclage, ou le... En anglais, c'est repurpose. Donc, redonner un sens à un objet, c'est quand on peut plus ou on veut plus utiliser l'objet en l'état. Donc, par exemple, nous, là, ça va être le stade où les lunettes sont cassées à un endroit où on peut pas restaurer pour qu'elles durent. Parce que, par exemple, si le cerclage de la lunette est vraiment brisé, on peut le recoller, mais ça va pas durer. Et nous, on veut restaurer pour durer. Donc, on veut que si vous achetez une paire lunettes vintage et que vous la traitez bien, elle devrait durer encore pas mal d'années. Et c'est ça, toute la beauté de remettre en état. Donc, si c'est pas possible, ce qui va être fait, c'est le surcyclage. Donc là, c'est ce qu'on fait aussi avec les verres. Donc, changer le but, en anglais, purpose, donc la fonction d'un objet, pour la revaloriser. Donc, des verres de lunettes qui deviennent des bijoux. Là, on est en discussion avec un partenariat d'un artisan qui aimerait revaloriser les lunettes cassées pour en faire des petits objets du quotidien, par exemple des supports pour accrocher des choses au mur. On en parlera bientôt sur nos réseaux, donc suivez ça de près. Si ça fonctionne, ça peut être chouette parce que ça peut revaloriser les lunettes qui sont cassées, que nous, on peut pas revaloriser. Et le tout dernier qu'on recommande sur la chaîne, qui est quand même l'économie circulaire, mais la plus énergivore, c'est le recyclage. Et donc, moi, ça m'énerve un petit peu quand on réduit l'économie circulaire qui a tellement de choses à proposer dans la hiérarchie que je viens de présenter et tellement de possibilités de créer, en fait, et de échanger, remettre en état, enfin, tellement de mots, ça m'énerve qu'on le réduise au recyclage. Parce que c'est le dernier des éléments. Et c'est pas facile de recycler les lunettes parce qu'il y a à la fois du plastique, du métal et des polymères.
Mais donc, en fait, vous chassez les objets, mais vous chassez aussi les idées. Visiblement, vous cherchez un petit peu tout ce qui se fait pour arriver à faire justement de l'upcycling. C'est génial.
C'est très joliment dit. Est-ce que je peux te copier la phrase pour nos réseaux sociaux?
Mais bien sûr, avec plaisir.
Ouais, on adore la créativité que ça fournit. Le fait de se dire, bon ben voilà, on se met, ce qui peut paraître une contrainte, c'est qu'on veut réutiliser au maximum des choses existantes. Et en fait, pour nous, ça devient un cadre, un terreau fertile dans lequel créer, échanger, partager. Parce que du coup, on a un sous-produit et on va devoir chercher quelqu'un qui a cette idée folle d'en faire quelque chose pour lui apporter de la valeur. Et ça, franchement, ouais, nous, ça nous nourrit beaucoup et ça permet de rencontrer des gens incroyables aussi.
Oui, j'aime bien vraiment le côté jeu, finalement, parce que j'ai l'impression que ça va bien au-delà de faire quelque chose de bien pour la planète. Ça doit aussi être sympa pour les gens. Je ressens vraiment ce côté un petit peu fun. Il faut aussi que les lunettes plaisent.
Exactement, et ça me fait super plaisir que que tu dises ça, parce que c'est aussi vraiment notre approche. On n'est pas là, bon, là, je viens de faire 5 minutes de speech sur l'économie circulaire, mais c'est pas ce que t'as demandé. En général, on rentre pas du tout dans ces détails et on veut vraiment rentrer dans l'esprit des gens par le fun, par le beau. On sélectionne les lunettes parce qu'on trouve qu'elles sont magnifiques, qu'elles devraient pas être jetées, oubliées, laissées au fond des tiroirs. Il y a des designs incroyables qui ont été faits au fil des années et on veut juste les remettre en lumière. On veut que les gens s'approprient cet accessoire et soient trop contents quand ils les sortent. Ils se disent « Waouh !» Ça va trop bien avec ma journée, avec mon style, ma tenue. Et aussi, c'est unique, parce qu'au final, le fait que ce soit des montures qui ont été fabriquées au siècle dernier, il y a très peu de chances que ton voisin de palier ait la même paire que toi, ce qui est assez rare dans la fast fashion, dans la mode rapide de nos jours. Donc vraiment, c'est ça, on a envie de montrer que c'est fun, que l'économie circulaire ou que réutiliser ce qui existe, ça peut être hyper créatif, et qu'il y a tellement de beaux objets à mettre en valeur que ce serait dommage de pas faire ce qu'on fait, en fait.
C'est vrai que c'est... Ben, maintenant que t'en parles, je me dis que c'est complètement paradoxal, parce qu'on est vraiment à une période, je pense, où les gens essayent vraiment de se différencier et ont le choix aujourd'hui de s'assumer tels qu'ils sont. Mm-hmm.
Et en même temps, on est vraiment dans cette, un peu cette conformité de la consommation où finalement, c'est difficile de se distinguer, comme tu disais, avec la fast fashion où, où en fait, bah, tout se ressemble.
Et... Exactement. Et nous, c'est vrai qu'avec Pauline, on a très tôt été attirés par le vintage quand on était ado ou étudiante. Et en fait, à l'époque, je pense qu'on ne se rendait pas du tout compte du fait qu'on réutilisait des pièces existantes. On se disait juste, ah bah c'est beaucoup plus abordable. Et puis c'était le côté, ça a une histoire, c'est unique. C'était vraiment plus ce qui nous avait attiré. C'était le côté, cet objet a une vie avant. On peut imaginer, je sais pas, les différentes époques où on essaie de reconnaître avec les étiquettes si c'est des années 30, 50. Enfin, moi j'adore faire ça. C'est vraiment le côté fun ou intéressant de la Chine, mais aussi le côté un peu plus peut-être nostalgique, sans aller à fond là-dedans, mais voilà, de se dire, ben, ce que j'ai porté là, ce manteau, il n'a pas été fabriqué il y a un an quelque part dans le monde avec des grosses machines, mais il a été porté par d'autres, peut-être il a eu une belle histoire, peut-être pas. J'adore fouiller dans le grenier de ma grand-mère parce que du coup, là, je peux demander l'histoire qui va avec, à qui ça appartenait et tout ça. Mais j'ai aussi vu, parce qu'on fait beaucoup de veille dans tout ce qui est le vintage, le surcyclage, etc. On adore ça. Si vous êtes des marques de surcyclage et de vintage, n'hésitez pas à nous contacter pour des partenariats, des shootings. Il n'y a vraiment pas de souci. On a remarqué qu'il y a de plus en plus de marques vintage qui commencent à raconter les histoires de leurs pièces. Et nous, on essaie de faire ça sur chaque fiche produit dans le site. Il y a une ligne ou deux sur l'origine de la monture, où est-ce qu'on l'a trouvée. Et bon, ça prend un peu de temps, mais on pense que ça fait aussi partie du charme.
Complètement. Oui. Oui, parce que, encore une fois, t'achètes un objet unique, donc c'est vraiment chouette de découvrir l'histoire qui se cache derrière, en fait.
Et puis, c'est un peu la boîte de Pandore. Nous, on va te dire, ben voilà, cette monture, on l'a trouvée dans une brocante en Espagne ou dans une petite boutique au nord de l'Italie. Parce que quand on voyage à titre personnel, on a toujours les yeux grands ouverts pour voir si on veut trouver des paires. Et à partir de là, bah, à toi d'imaginer ce qu'il y a eu avant peut-être, ou pas.
Ouais, et se l'approprier.
C'est ça. Une de nos meilleures histoires de Chine, c'est quand c'était en été 2019, j'étais dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie, pour un festival de danse, de lindy hop, avec des amis à moi. Et en fait, on avait loué une petite voiture, et donc la journée, on avait décidé d'aller voir un petit village dont j'oublie tout le temps le nom, Martina Franca. C'était le village de Martina Franca, un village dans le sud de l'Italie magnifique. Et en fait, on est tombé par hasard sur une brocante, sur un marché d'antiquaires. Et donc là, forcément, j'ai dit à mes copines, désolée, mais il faut que j'aille faire un tour, voir s'il y a des lunettes, ça prendra pas longtemps. Et je suis tombée sur un stand d'un vieux monsieur qui avait une boîte à chaussures pleine de montures, mais de montures vraiment magnifiques. Et je lui ai dit, ça vient d'où? Est-ce que je peux vous acheter la boîte entière? J'essaie de comprendre. Et en fait, il avait récupéré ça d'un ami à lui qui était opticien, qui avait fermé. Et donc, il y avait énormément de stocks non utilisés. C'était des paires qui étaient un peu déformées par le temps parce qu'elles étaient des années entre 50 et 70, mais qui n'avaient jamais été portées. Et du coup, j'ai dit, mais est-ce que vous en avez d'autres? Il m'a dit, reviens dans 2 jours. Et donc, 2 jours après, j'y suis retournée. Et en fait, il avait 4 ou 5 boîtes à chaussures. Et ça a fini sur... j'ai acheté genre 120 paires qui n'avaient jamais été portées, de marques italiennes toutes plus belles les unes que les autres. Et j'ai dû, j'avais pas de valise à facturer, j'ai dû facturer une valise juste pour mettre mes lunettes. Et voilà, et ça a été un des énormes stocks qu'on a réutilisé et dont on a adoré raconter l'histoire, parce que c'était absolument aléatoire la façon dont on les a trouvés.
Et donc tu me parlais de ta grand-mère? Tu disais que t'allais fouiller dans ses affaires.
Ouais.
Tu peux m'en dire plus? ça va.
Ouais, ma grand-mère est de, donc c'était des agriculteurs et donc ils sont toujours dans leur village de campagne et c'est de ces gens-là qui ont vraiment, bah, qui avaient pas grand-chose et donc en fait ils ne jetaient rien, mais pas comme nous parce que on veut faire attention aux ressources de la planète et tout. Ils y étaient pas du tout. C'est juste que, enfin, ils étaient pas dans cette dynamique-là. C'est juste qu'ils ne jetaient rien parce qu'ils avaient vraiment pas grand-chose. Donc tout était à valoriser. Et je pense que quand j'ai commencé le projet Lunel Vintage, ça a été très intéressant quand j'ai discuté avec elle parce que il y a une partie d'elle qui comprenait pas pourquoi on mettait ça en avant, le fait qu'on réutilisait les choses, parce que pour elle c'était absolument normal. Et je pense qu'elle s'est rendue compte qu'en deux générations on avait quand même oublié un peu d'où on venait, c'est-à-dire que nos grands-parents n'avaient rien ou vraiment pas grand-chose. Mais ça a été aussi hyper cool parce que quelques semaines après, elle est revenue vers moi avec une boîte à chaussures. Encore une fois, apparemment, on garde pas mal les montures dans des boîtes à chaussures. Elle est venue avec une boîte à chaussures pleine de... Il y avait une dizaine de paires de lunettes, certaines hyper abîmées, hyper poisseuses, d'autres hyper belles et élégantes. Et en fait, elle m'a dit, bah, ça, c'est toutes les lunettes de la famille. En gros, on les a jamais jetées. Il y a les lunettes de l'arrière-grand-père, il y a les lunettes de l'oncle un tel, il y a ses lunettes à elle quand elle était jeune. Et j'ai juste trouvé ça magnifique. Et donc, on les a nettoyées, on les a restaurées. Et le Noël suivant, j'en ai offert à mes cousines. On a bien sûr essayé, voir, parce que chaque modèle est unique, donc il y a une seule taille. C'est ça aussi la beauté. Mais sur le site, c'est hyper clair, les tailles. Et sinon, vous pouvez nous écrire. Donc j'aurais fait essayer et puis j'ai restauré pour elle des paires donc de notre famille pour qu'elle reste dans la famille, mais au lieu de rester dans la boîte à chaussures, dans le grenier de la famille, qu'elle soit réutilisée. Et ça c'était chouette et c'était émouvant aussi de pouvoir voilà, reporter les lunettes de nos aïeux.
Tout à fait. Et c'est encore plus riche d'histoire à ce moment-là.
Oui, et du coup, petit message, ça nous a aussi fait penser au fait que c'est intéressant de chiner les paires et de vous proposer des belles paires, des beaux designs, mais on peut aussi vous aider à restaurer vos paires existantes. Donc, demandez à vos grands-parents, à Noël ou autre, s'ils ont des vieilles paires de famille. Très souvent, avant les années 80, c'est de la très bonne qualité. C'est aussi pour ça qu'on s'est spécialisé dans le vintage. Et donc, sauf si elles sont totalement cassées, on devrait pouvoir les restaurer et vous pouvez choisir la couleur des verres et autres. Ça peut être en verre de vue, en verre solaire... Suffit de nous contacter, on peut faire un devis sur photo et vous permettre, bah, vous aussi, de reporter les lunettes de famille.
Trop génial, ça donne envie. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le processus, du coup, comment ça se passe, depuis le moment où elles arrivent chez vous et où elles sont revendues?
Ouais, bien sûr. Donc, comme on a décrit, il y a la Chine. Une fois qu'on a trouvé les paires un peu partout, on va les trier et on va les organiser par forme, mais aussi par matériaux. On va voir quel type de défaut elles ont, s'il y a des plaquettes. Donc les plaquettes, c'est la partie qui est proche du nez pour les montures en métal, mais toutes les montures n'ont pas de plaquettes. On va enlever les verres, on va regarder un peu qu'est-ce qu'il y a à faire sur cette paire-là. Ensuite, on va les stocker dans... On a un grand inventaire de tout type de montures. Et ce qu'on va faire, c'est en fonction de ce dont on a besoin sur le site ou de la demande, on va les restaurer petit à petit. On restaure pas tout d'un coup parce qu'on est une petite entreprise. On fait un peu sur demande. Mais ce qui nous permet aussi d'être hyper flexible parce qu'on a entre 500 et 600 montures organisées par taille et par forme dans le garage de chez Pauline. Wow. Donc si vous trouvez pas sur le site, on essaie d'avoir une sélection variée. Mais si vous ne trouvez pas sur le site ce qui vous plaît, on adore aussi faire du sur-mesure. Par exemple, tu nous écris, tu nous dis, bah, écoute, moi, il y a cette paire que j'ai vue, je sais pas, sur quelqu'un ou cette forme que j'ai vraiment envie d'essayer. Est-ce que vous auriez pas quelque chose de similaire? Et on fonctionne par catalogue de photos. Donc, on vous envoie un lien en ligne avec des photos de monture et en fonction de ça, après, on peut vous faire une sélection. Donc, une fois que cette sélection est faite ou que nous, on a fait notre sélection pour le site ou pour un magasin ou autre, on va travailler avec nos ateliers pour qu'ils restaurent. À l'époque, enfin, quand on a commencé, c'est nous qui faisions la restauration manuelle. On a appris avec des opticiens, on s'est formé aussi en faisant des tests. Toutes les deux, on est ingénieurs en chimie, donc on n'a aucun souci à faire des petites expériences. Certaines ont bien fonctionné, certaines pas, donc on s'est dit, ok, ça, bah, on le garde pas, ce processus ou ce nettoyage. Toutes les lunettes vont être aussi nettoyées au bain ultrason pour enlever s'il y a de la poussière, des particules ou autre.
Qu'est-ce que c'est un bain ultrason ?
Alors, très bonne question. Un bain ultrason, c'est un bain qui... C'est ce qu'on utilisait très souvent dans les laboratoires pour laver en profondeur. On va plonger les lunettes dans un bassin avec de l'eau et parfois un petit peu de produit si besoin, si elles sont très sales. Et en fait, on va activer les ultrasons. Donc, c'est des fréquences de son très élevées qui vont faire vibrer en fait les objets. Et du coup, ça va faire vibrer la saleté ou les particules qui vont se détacher de la paire de lunettes en profondeur. Donc, ça va permettre de nettoyer à des endroits où on pourrait pas manuellement aller.
Génial, j'avais jamais entendu parler, enfin je pense.
Petit détail technique. C'est aussi utilisé pour les bijoux anciens ou autres, les pièces de monnaie et tout ça.
Ok.
Voilà. Chez notre atelier partenaire, on va pouvoir, on leur demande de remettre en état, de changer les plaquettes en fonction du matériau de la paire, si c'est en polymère ou en métal, on va pouvoir polir ou enlever parfois l'acétate de cellulose qui est le matériau de prédilection des lunettes vintage. C'est une sorte de polymère qui est fait à partir de cellulose. Donc la cellulose peut se trouver dans les plantes ou autres. Bon, après, ça devient un plastique. Hein. On va pas se leurrer. C'est pas parce que c'est fait à partir de plantes que ça peut redevenir plante. D'où l'importance de réutiliser les lunettes et pas les jeter. Mais en tout cas, c'est un matériau hyper résistant et très très beau. Parce que on peut faire plein de jeux de couleurs et il va laisser passer la lumière d'une façon à mettre en avant le matériau, pour la monture, je parle. Ça, on va, avec le temps, parfois, ça blanchit, donc on va pouvoir le polir ou autre. Ça, c'est pour les paires qui vraiment ont besoin de beaucoup de travail de remise en état. Certaines paires, en fait, elles ont juste besoin de changer les verres, les plaquettes et une remise en forme. Donc, parfois, avec le temps, les paires se déforment, surtout si le verre est pas gardé. Si vous voulez garder des lunettes longtemps, il vaut mieux laisser le verre et enlever le verre au dernier moment, au moment de l'échanger, parce que ça maintient la forme de la monture.
Du coup, ça va varier sur le devis, le prix final, par rapport au processus qu'il va falloir pour remettre en état.
Exactement, c'est pour ça que sur notre site, on a différents prix. On a une entrée de gamme à 67 euros, donc pour des montures, enfin pour des lunettes de soleil avec un verre certifié par nos opticiens, parce que ça, c'est la dernière étape. Une fois que la monture est remise en état, les opticiens avec lesquels on travaille vont monter des nouveaux verres, donc des verres neufs en France. Et c'est important que le verre soit neuf parce que on a quand même vachement amélioré la qualité des verres de nos jours. Et du coup, ils sont aux normes européennes de 2022 et pas de 1970 comme la monture. Mais sur la monture, la qualité était tout aussi bonne, voire meilleure avant, parce qu'on produisait moins et on produisait un peu mieux. J'ai pas envie de parler comme ma grand-mère, mais...
Non, mais c'est vrai, ça se vérifie dans énormément de domaines, pas uniquement pour les lunettes.
C'est ça. Et donc, pour finir sur le prix, c'est vrai que ça va dépendre, oui, du prix de la monture initiale, si nous, on l'a trouvée, aussi du temps qu'on a passé à restaurer, et de la rareté aussi. On a certaines montures qui sont vraiment des années 20, avec du travail sur la monture ou avec des gravures, etc., qui vont être plus chères parce qu'elles sont hyper dures à trouver. Mais sinon, l'entrée de gamme à 67 euros, c'est vraiment pour essayer que le plus possible, tout le monde ait une chance d'utiliser des produits issus de l'économie circulaire.
Mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte du travail qu'il y a derrière et tu m'en parles vraiment comme si c'était des objets d'antiquité.
Non, en vrai, on est aussi très passionnés et là, je t'ai expliqué en grand détail, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a mis un peu en place le processus de restauration, c'est pas si compliqué. Par contre, c'est vrai que ça prend du temps et c'est pour ça que c'est important de dire qu'on trie les lunettes qui ont de la qualité parce qu'en fait, mais malheureusement, c'est un peu comme dans le textile, ça vaut pas le coup de restaurer ou de remettre en état manuellement quelque chose qui n'est pas d'une qualité assez élevée, en fait.
Du coup, ça posera peut-être problème par la suite. Peut-être que les lunettes actuelles, on ne pourra plus faire ça avec. Qu'est-ce que tu en penses ?
C'est une bonne question. Il y a de tout. Il y en a quand même, parce que du coup, nous, on en reçoit aussi. On a des dons de montures ou alors dans nos points de collecte. On en reçoit aussi. On ne les jette pas. on ne les garde pas parce que c'est pas notre focus et c'est pas notre image de marque. Enfin, c'est pas notre ambition de restaurer des lunettes récentes. Mais on en voit qui sont quand même de bonne qualité. Donc, il y a de quoi faire. On les garde et on a des partenariats pour que d'autres puissent les revaloriser. Mais c'est vrai qu'en proportion, il y en a moins qui sont de bonne qualité. Après, on peut aussi dire que les lunettes anciennes de mauvaise qualité, elles vont pas arriver jusqu'à nous de nos jours, parce qu'elles vont être cassées entre-temps. C'est possible. Je sais pas. Je pense qu'on est en train de revirer vers un peu plus de la qualité dans les attentes des clients aussi, etc. Et il y a encore un peu de tout dans le monde de l'optique. Mais nous, on préfère les lunettes anciennes, ça c'est sûr. Et on adore travailler avec des pièces uniques, même au niveau de notre travail au quotidien. C'est vachement plus intéressant de remettre en état ou de chiner ou faire des fiches produits, même si ça prend plus de temps, de lunettes qui sont différentes à chaque fois.
Je me demandais par rapport à vos partenaires, notamment opticiens, est-ce qu'ils sont difficiles à trouver, dans le sens, est-ce que beaucoup sont enthousiastes par votre projet ou est-ce que c'est vraiment des personnes spécifiques qui comprennent ce que vous faites ?
Franchement, on a eu un petit peu de mal au début. On s'est toutes les deux, on habitait dans des villes différentes, on s'est dit « Ok, on va faire un test ». On s'est pas vraiment rendu compte que ce qu'on faisait à la base, c'était ce que maintenant on appelle du lean startup ou du test et itération de produits, de développement de produits. En fait, on a eu l'idée autour d'un bon verre de vin, évidemment, et on s'est dit « Ah ben, on pourrait les restaurer si nous, on a eu envie de restaurer des lunettes pour nous. » Peut-être que il y a le besoin chez d'autres. Et donc on s'est dit ok, on va prendre les 10 paires qu'on a chinées, qu'on trouve les plus belles, et on va chercher des opticiens partenaires pour nous aider, parce que du coup on est deux ingénieurs en chimie, le monde de l'optique c'était totalement inconnu pour nous. Et on s'est dit ok, on se donne 2 semaines et chacune va toquer à toutes les portes des opticiens autour de chez nous. Et en fait on avait quand même beaucoup de refus au début, beaucoup de gens qui nous ont dit mais en fait non. Genre, qu'est-ce que vous venez faire chez nous ? En fait, la peur de beaucoup d'opticiens ou de gens qui n'ont pas l'habitude de retravailler des montures, c'est qu'en fait, les lunettes vont casser ou que en fait, ils vont passer trop de temps dessus. Alors qu'en fait, c'est si la sélection en amont, donc c'est pour ça qu'on filtre les montures, elle est bien faite, ils vont passer le même temps que sur des lunettes récentes. Nous, on les a nettoyées en amont, on a fait la sélection. Mais il y a cette espèce de peur de l'inconnu et aussi de, je pense, faire un peu chambouler leur univers, parce que le monde de l'optique est quand même assez fermé. C'est un monde où, encore une fois, c'est en train de changer, mais on ne parle pas trop de l'origine des matériaux, où sont fabriquées les lunettes. Et du coup, ils sont très confortables. Il y a des grosses marges qui sont faites dans le monde de l'optique, ce qui n'est pas notre cas. Parce que nous, on se positionne vraiment en marque de mode et marque de surcyclage. Et en fait, je pense qu'ils sont pas trop ouverts à l'inconnu, en fait. Mais on est tombé, donc on s'est centré sur plus des opticiens indépendants qui ont du coup leur propre boutique, parce que très souvent c'était aussi il y a beaucoup de chaînes dans l'optique et donc ils peuvent pas vraiment décider. En fait, on s'est centré sur des opticiens indépendants qui avaient cette fibre là de soit l'innovation soit la durabilité, et en fait qui ont été sensibles à ce discours et avec qui le feeling est bien passé. Il y en a, donc c'est chouette, mais c'est vrai que c'était pas n'importe quel opticien qui au début a bien voulu travailler avec nous.
Ouais, j'imagine. Et est-ce que tu peux nous parler plus en détail d'autres choses que vous proposez, peut-être au-delà de la vente, aussi expliquer justement comment ça fonctionne, votre plateforme en ligne, est-ce qu'il y a des catégories, comment ça fonctionne ?
Ouais, bien sûr. Alors, on a fait, je vais te parler de différents éléments, on a fait pas mal de tests de comment remettre nos lunettes sur le marché, parce que je dirais que c'est sûrement la partie la plus compliquée pour nous, c'est de savoir comment vous donner accès, je dis vous, à qui nous écoute ou qui a envie de lunettes durables ou vintage, comment donner accès et comment en fait parvenir, nous on est dans notre coin, on est dans l'ouest de la France, comment faire venir le message ou les produits à nos potentiels clients ou aux gens intéressés. On a fait différents tests, on a commencé en faisant pas mal les marchés de créateurs, etc., aussi parce que c'est une façon très agréable de pouvoir tester et d'avoir les retours directs des personnes, voir qui s'arrête, qui discute, qui pose des questions, qui est c'est quoi. Nous, on est très fiers du fait que nos lunettes soient unisexes. parce qu'on n'a jamais vraiment compris pourquoi les lunettes hommes et les lunettes femmes. On pense vraiment que c'est quelque chose inventé par le marketing, mais alors, encore une fois, on est très ouvert d'esprit. Si quelqu'un un jour nous explique et nous convainc qu'il y a vraiment une raison, on y réfléchira. Mais pour l'instant, nous, on considère qu'on a tous deux oreilles et un nez, et c'est ce qu'il faut pour poser les lunettes, en principe. Hein.
Tout à fait.
Donc, libre à vous de choisir le style, la forme qui vous plaît, et nous, on veut rien dicter à personne. Donc, par exemple, sur un marché, on va avoir toutes les paires, et ça va être très intéressant de voir qui et c'est quoi, et très souvent, et ça, on adore, ça sort vraiment des clichés. Donc, on peut avoir des hommes qui viennent et c'est des lunettes hyper colorées, des grandes, des roses, et c'est trop bien. Parce que c'est ça aussi la magie du vintage, c'est qu'il y a eu tellement de designs qui sont faits que tu peux forcément trouver ton coup de cœur si t'en essaies assez, ou si tu regardes dans notre site. Donc, pour venir au site, on l'a créé au printemps 2020. Et donc, 2020, là, je pense que ça va faire écho à beaucoup de gens. Et oui, en plein Covid, parce que les marchés, c'était chouette. Sans mauvais jeu de mots, ça marchait plutôt bien pour nous. Mais en fait, bah, tout a été annulé en 2020, quoi.
Ouais, tout à fait.
Et donc, ça faisait un petit moment qu'on se disait, est-ce qu'on se digitaliserait pas? Mais on n'est pas les femmes les plus digitales du monde. Et du coup, on traînait la patte. Donc là, on n'a pas eu le choix. On a bossé pendant plusieurs mois sur ce projet. Et puis finalement, on est très contente d'avoir la boutique en ligne. Ça nous permet d'avoir une audience plus large. Ça vous permet, où que vous soyez, en fait, de voir ce qu'on propose et de nous contacter. Et ça a créé vachement de très beaux liens. Et puis ça tourne. C'est vrai qu'en été, ça tourne plus. Mais là, on va proposer la capsule des lunettes de ski. Depuis cet été, on a commencé à fonctionner par capsule un peu plus. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait sur notre site à disposition plein de lunettes de soleil organisées par différentes formes. Donc, soit vous pouvez juste toutes les regarder. Chaque paire est unique. Donc, c'est hyper important de regarder la taille aussi. Dans chaque fiche produit, on explique comment mesurer les tailles. Et franchement, si on suit les indications, c'est très prometteur. On a fait beaucoup de tests et ça marche bien. Après, il n'y a pas de stress à avoir parce que c'est tout à fait possible de rendre les lunettes. Il y a deux semaines jusqu'à la date pour laquelle on les rend et on est remboursé. Donc pour cela, si vous avez un doute, bah juste commandez, essayez. Et après, on s'arrange. Donc les lunettes soleil, en 2021, on a sorti, parce qu'on avait pas mal de demandes, les lunettes lumière bleue. Donc c'est des lunettes qui ont des verres sans correction, mais qui filtrent la lumière bleue des ordi, donc pour réduire la fatigue oculaire quand on passe toute sa journée sur l'ordi, en télétravail ou autre. Et ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet de réutiliser les montures à d'autres fins. Donc depuis cet été, on a commencé à travailler en capsule. Donc c'est des mini-séries de lunettes qu'on restaure et qu'on remet sur le site, mais avec des petites thématiques. Donc cette année, on a fait cet été la collection ou la capsule festival, où en fait c'est des lunettes qu'on a remis en avant avec des verres de couleur, et on aime vraiment casser un peu ces codes-là. De pareil, il peut y avoir une monture qui fait un peu grand-mère, mais on lui met des verres roses ou des verres bleus et ça change totalement et c'est hyper fun. Aussi, tout le monde devrait essayer les lunettes roses parce que moi j'adore voir la vie en rose, mais vraiment en fait en rose parce que
excellent.
Ça amène plus de couleurs et de contraste, voilà. Les bleus, c'est pas mal aussi. Je vous laisse.
Ça change l'humeur, vraiment?
Ben, oui. Surtout, en fait, donc c'est des lumières qui protègent du soleil, mais qui protègent un petit peu moins que les verts gris ou verts ou plus foncés. Et donc, en fait, c'est recommandé pour pas le plein soleil, mais pour demi-saison ou pour les jours un peu nuageux. Ces jours où, en fait, le ciel est assez bas, mais il y a beaucoup de luminosité. Et donc, en fait, c'est des jours où peut-être, moi, avant, je portais pas de lunettes de soleil, mais je suis hyper sensible des yeux, donc je plissais tout le temps. Là, je mets les lumières roses, et non seulement je plisse plus des yeux, mais en plus, j'ai l'impression que c'est pas grave, que le temps est pas si pourri que ça, et que ça va être une bonne journée. Donc, la capsule pour la bonne humeur, la capsule festival, et très bientôt, la capsule ski, pour profiter des joies des sports d'hiver, avec des verres polarisants qui vont permettre de pas être affectés par les reflets du soleil sur la neige. C'est des verres qui vont filtrer ça. All right. Et on a aussi quelque chose qu'on aimerait un peu mieux promouvoir, parce que voilà, on n'a pas encore réussi à bien le mettre en avant, mais c'est les cartes cadeaux. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes qui nous disent « Ah ben, moi j'ai des lunettes, j'en ai pas besoin, mais par contre je pense que ça pourrait plaire à ma copine ou à ma cousine ou autre. » Du coup, on a sorti un modèle de carte cadeau, mais comme nous, on est très dans le physique, c'est une carte cadeau en papier ensemencé. Donc du coup, si vous la commandez sur le site, avec le montant de votre choix, on vous l'envoie par la poste, mais on la remplit pas. C'est-à-dire qu'on va vous mettre un petit mot, on va glisser un petit mot dans l'enveloppe pour vous, mais on la remplit pas. Donc vous avez le code et la carte cadeau et un espace pour vous écrire le message pour la personne à qui vous voulez l'offrir. Donc ça permet de quand même mettre quelque chose sous le sapin ou autour du gâteau d'anniversaire et de proposer l'option à la personne de votre choix de choisir sa paire sur notre site.
Psst, je sais que je radote, mais si tu cherches tous les liens utiles mentionnés dans ce podcast, que ce soit pour voir la vie en rose, être la plus stylée sur les pistes de ski ou pour le cadeau de Noël de dernière minute pour tonton Georges, tu les retrouves bien entendu dans le descriptif.
Et donc tu m'avais parlé aussi de restaurer soi-même les lunettes. Est-ce que vous proposez des ateliers ?
Ah, très bonne idée. Non, on propose pas ça. On propose pas des ateliers, mais ça peut être intéressant. Non, ce qu'on propose, c'est le même principe que ce que j'avais fait avec les lunettes de ma grand-mère, c'est qu'en fait, vos propres lunettes, alors elles peuvent être de famille ou pas, hein, ça peut être des lunettes, et ça pour le coup, ça peut être des lunettes récentes, par exemple celles que tu portes, elles sont abîmées, elles ont un défaut, ou t'aimerais les transformer en lunettes de soleil ou autre, vous pouvez nous écrire sur le site ou Instagram ou par mail. Donc notre site c'est lunellevintage.com et nous envoyez des photos de la paire, on vous fait un, et ce que vous voulez qu'on change, qu'on restaure, on vous fait un devis, vous nous envoyez la paire, on la restaure, on vous envoie des photos et ensuite on vous la renvoie une fois qu'on a reçu le paiement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas organisé des ateliers pour que les gens restaurent leur paire parce qu'il faut beaucoup de matériel. Après, ça peut être une idée, s'il y a des gens intéressés, n'hésitez pas à nous contacter. Ce qu'on organiserait plutôt, ce serait peut-être à l'avenir des ateliers. On adore le surcyclage, donc ce serait peut-être plutôt des ateliers de faire tes propres bijoux avec les anciens verres. Ou on a fait parfois des tutos de, on a designé des étuis à lunettes dans des vieilles cravates vintage. C'est pas la plupart de nos étuis, mais c'est une option d'étuis vegan parce que nos étuis sont aussi en surcyclage, mais ils sont en salpax, qui est un matériau issu de chutes de cuir. Et donc, ce sont des étuis cousus main par un partenaire qui a un atelier, un petit atelier de maroquinerie. Et ça a commencé, je l'ai rencontré dans un marché, et j'ai commencé avec lui à designer nos premiers étuis. Et en fait, j'allais dans son atelier, on les cousait ensemble. Et donc, c'est là encore une belle rencontre et une belle histoire. Mathéo, si tu nous entends. Et donc maintenant, bon, on les lui sous-traite. Mais voilà, on s'est demandé ah, qu'est-ce qu'on peut faire pour la version végane, parce qu'on respecte tout à fait que certaines personnes n'aient pas envie d'avoir un produit dérivé du cuir ou d'animal. Et pareil, encore une fois, la contrainte, on veut réutiliser quelque chose d'existant. Et puis, un jour, j'avais cette idée en tête qui traînait et je me suis baladée dans un magasin d'occasion type Emmaüs et il y avait énormément de cravates. Et puis, j'avais mes lunettes sur la tête et je me suis rendu compte que les lunettes rentraient dans la partie ouverte, large de la cravate. Et là, voilà, ça a fait tilt et j'ai designé un petit étui de lunettes en cravate qu'on peut faire assez facilement chez soi. Donc ça, on met parfois le tuto en story Insta, si ça vous intéresse.
Trop génial. Mais je vois que c'est pas les idées qui manquent, en tout cas.
Non, je dirais que c'est plus le temps et parfois un peu la com. Donc, je te remercie pour l'espace de parole dans ce podcast. Mais c'est parfois pas évident, quand on est au four et au moulin, de bien communiquer et de se faire connaître, en fait, parce qu'on est toute petite, en fait. Et c'est pas grave.
Ouais, tout à fait. On aura l'occasion d'y revenir en détail dans la deuxième partie. Est-ce que tu aurais des coups de cœur par rapport à d'autres projets qui font des belles choses à impact positif ?
Là, je vais du coup parler d'un projet que j'ai découvert récemment et qui est très jeune. Donc du coup, je veux d'autant plus lui donner de la voix, parce que c'est vrai que c'est quand on démarre que c'est encore plus compliqué de se dire est-ce que ça peut intéresser quelqu'un ou autre. Ça s'appelle, donc c'est un projet français de surcyclage aussi. C'est une femme qui a créé un projet qui s'appelle Nouvelle Boucle. Et en fait, elle réutilise des matériaux, des anciens tissus d'ameublement, je pense, des rideaux, des canapés et tout ça, pour en faire des sacs à dos. Mais en fait, ce que j'adore, c'est que on peut faire ça, donc ça part d'une contrainte, mais en fait, c'est super beau. Donc un peu comme nous, elle finit sur un produit esthétique, c'est-à-dire qu'on va pas réutiliser juste pour réutiliser, et au final, c'est un compromis avec l'élégance ou le style. Là, pas du tout. Ses sacs à dos sont vraiment très jolis. Elle a fini, il y a quelques semaines, sa première campagne participative. Je pense que ça a bien fonctionné. Et voilà, c'est des sacs à dos très beaux, très fonctionnels. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'elle pousse le côté récup ou réutilisation jusqu'au bout, un peu comme nous. Et donc, j'ai vu récemment que, par exemple, pour envoyer les sacs qui ont été précommandés, elle les envoie dans des anciens sacs agricoles ou quelque chose comme ça. Enfin, vraiment, pareil, je pense qu'elle a la même mentalité de réutiliser un maximum. Et donc, comme on fait souvent, quand j'ai vu le projet par hasard hein, sur Instagram en faisant de la veille, je l'ai contacté. Ah, c'est super ce que tu fais. Et on a discuté un peu. Et peut-être qu'un jour, on fera une collaboration ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un beau projet. Donc, allez voir. Sur les sacs à dos, Nouvelle Boucle. Et ensuite, en ce moment, j'ai un peu je fais un peu une fixette sur, il y a différents comptes qui remettent en valeur ou customisent, on va dire, c'est plus de la customisation, des vestes, des anciennes vestes en jean ou des salopettes ou autres, en y accolant des anciens canevas. Donc les canevas un peu de mamie qu'on voit en cadre et on se dit « Waouh, c'est horrible, qui va mettre ça chez soi ?» Et en fait, j'adore l'idée de totalement le sortir du contexte et de dire « Oui, en cadre accroché au mur, c'est poussiéreux et horrible, mais par contre, c'est un textile. » Je suis plusieurs comptes qui font ça. Ce qu'elles en font, c'est que elles vont l'enlever du cadre, le nettoyer, etc. et s'en servir comme un textile et en fait, le découper et l'accoler sur des vestes en jean, des salopettes ou autres. Soit en petite touche, soit dans le dos. Et en fait, je trouve ça trop cool. Je crois que je vais m'en commander une. Et donc, ça rend chaque modèle unique. Et il y a plusieurs comptes qui font ça. Mais j'avais contacté une femme qui a une marque qui s'appelle Seconde Poche.
Ok.
Donc, on voit qu'on est beaucoup dans l'économie circulaire. Nouvelle, seconde.
Tout à fait.
Voilà, Seconde Poche. Laura qui, du coup, en fait, mélange les anciens canevas avec des anciens habits, et ça crée des pièces vraiment uniques et qui ont de la personnalité. Encore une fois, ce qu'on disait en début d'épisode, créer des pièces uniques pour s'exprimer, en fait.
Oui, exactement. D'ailleurs, ça me rappelle maintenant que tu m'avais envoyé un message parce que j'avais partagé le projet qui s'appelle Cherry Tail et qui fait exactement la même chose, mais avec des chaises en tout genre, des bancs, des chaises de bureau.
C'est vrai
et... Ouais, et spoiler alerte, j'aimerais beaucoup l'avoir dans le podcast.
On lui fait passer le message.
Oui, mais je pense qu'elle est tout à fait partante.
Donc, ah, mais j'aimerais bien.
Vraiment, normalement, ça va se faire.
Ça irait tout à fait avec ma fixette du moment du réemploi de Canva.
Magnifique. Oui, c'est vraiment un très très beau projet aussi. Mm-hmm. Donc j'ai hâte qu'elle nous en parle.
Mais j'adore vraiment cette capacité de création qu'ont certaines personnes. De voir dans des objets totalement désuets, démodés, poussiéreux, un potentiel incroyable.
Exactement.
Et de nous le faire découvrir.
Oui, 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 oui. C'est bien qu'il y ait un regain d'intérêt pour tout ça aujourd'hui.
Mm-hmm.
Parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus riche. Ouais. Alors, j'aimerais bien vraiment qu'on revienne à la genèse, tout le parcours, pour en arriver à Linel Vintage aujourd'hui. Tintin,
suspense! 99 Challengers côté scène, c'est fini. Tu veux la suite et tout savoir au sujet des coulisses de notre invité ? Alors, rendez-vous dans le prochain épisode. Merci beaucoup pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à soutenir 99 Challengers en diffusant le podcast autour de toi, en laissant des commentaires ainsi qu'une pluie d'étoiles sur ta plateforme d'écoute. N'hésite pas non plus à me suggérer des invités. Pour suivre l'actualité de 99 Challengers, rendez-vous sur le compte Instagram, Facebook et sur le site internet 99challengers.com. À bientôt !